Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois être bouleversifié.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get out.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Aujourd'hui, on est en comité réduit à nouveau. Ça sent la fin de saison, ça sent les vacances, puisqu'il n'y a que Corentin et moi dans le studio pour un programme qui n'est finalement pas celui que je vous avais annoncé à la fin de l'épisode de la semaine dernière. Désolé d'avoir menti, mais c'est à mon corps défendant, puisque de fait, alors que ce 74e et avant-dernier épisode aurait dû être consacré à Love Life de Koji Fukada, la très faible distribution en salle du film pour sa deuxième semaine d'exploitation seulement nous a conduit à changer la programmation de l'épisode du jour. Aujourd'hui donc, deux films, une chronique, une discussion pour un épisode qui ne manquera pas de vous intéresser quand même, je l'espère. La semaine passée, Élise vous parlait des Rayons et des Ombres, film de Xavier Giannoli, sorti il y a maintenant 3 semaines, et qui a dépassé le 500 000 d'entrées en 3 semaines d'exploitation. Il s'achemine vers les 600 000 entrées, ce qu'on peut en soi saluer pour un film de près de 3h20, film production française, etc. À la fin de sa chronique, Élise regrettait que l'on n'ait pas pu débattre autour du film et, je la cite, que l'on n'ait pas pu entendre d'autres sons de cloche que le sien. Alors, dans le cadre de cet épisode 74 un petit peu remanié, je vous rappelle qu'on enregistre le lundi, donc le lundi de Pâques, ce 6 avril, donc un jour férié pour vous, chers auditeuristes, donc vous n'allez pas vous plaindre non plus, hein, ça va se calmer. Donc, dans le cadre de cet épisode de programme un petit peu remanié, je vous propose de prolonger les échanges de Transistor sur les Rayons et les Ombres en vous partageant mon propre avis sur le sujet. Comme c'est un texte que je n'ai pas originellement écrit pour Transistor, mais pour un contexte différent, il sera moins sérieux, peut-être moins brillant aussi que la chronique d'Élise, mais il apportera aussi un avis différent. Et pour commencer cette chronique sur les Rayons et les Ombres, je voudrais vous parler d'un film que j'aime énormément, qui est Papy fait de la résistance, un film avec la troupe du Splendide, des années 80, ressorti récemment dans une copie 4K restaurée, donc dont on peut espérer une réédition en DVD ou en support physique quel qu'il soit. Et en fait, il pourrait être étonnant de chercher dans Papy fait de la résistance des puissances rétroactives de l'histoire du cinéma, parce que c'est une comédie hilarante, évidemment, peut-être l'une des meilleures de tout le cinéma français, mais on ne l'envisage peut-être pas assez souvent sous son angle méta, pourtant réel et pertinent, car au cœur de ce film, il y a la parodie de tout un genre qui a donné au cinéma français certains de ses succès et certains de ses navets, le film d'occupation avec un O majuscule, un genre qui s'est rapidement codifié, installé et instauré, et dont Papy fait de la résistance, détourne habilement les poncifs, narratifs et visuels. Et là où Papy est très fort, c'est qu'en atteignant si justement ces clichés de mise en scène pour les tourner en dérision, il parvient à être plus moderne, que les films d'occupation qui sont sortis depuis et qui pourtant ressassent la même recette. Pour mon plus grand malheur et ma plus grande déception, eh bien ce dernier film de Xavier Giannoli, Les Rayons et les Ombres, ne fait pas exception. Il s'engouffre dans des portes ouvertes, dans des clichés, et on y trouvera donc orgie décadente en costume 18e, plan sur les escaliers massifs de l'architecture parisienne drapé dans un drapeau nazi, et visage froncé face au tragique de l'histoire. Et c'est ça, en fait, je pense, mon principal problème avec ce film, sa forme banale, ou d'ailleurs plus exactement son absence de forme, symptomatique d'un propos indéfini et incertain, y compris pour le réalisateur lui-même. On attendrait presque effectivement le générique des dossiers de l'écran à la fin des 3h20 de film, tant c'est plan-plan. Voilà, donc dossier de l'écran, une ref un petit peu datée. Moi-même, je n'ai pas vu cette émission, mais c'était le gag ultime de Papy fait de la résistance que de présenter le film qu'on venait de voir comme un film produit par, enfin en tout cas commenté par cette émission très didactique qui a fait les grandes heures de la télévision française. Bref, il est dommage, en tout cas, pour un film de cette durée, 3h20, Les Rayons et les Ombres, hein, cette fois-ci, largement diffusé, fortement promu et doté d'un certain budget, les fonds du CNC, de Studio Canal, de France Télévisions, de Netflix, n'en jetez plus, de ne pas se permettre d'aller plus loin qu'une mini historique produite par France 2 en 2x2 épisodes, programmée 2 vendredis d'affilée, toi-même, tu sais. Il est dommage de ne pas se permettre en effet d'aller plus loin dans son dispositif pour commencer et de choisir la facilité risquée du récit rétroactif des événements narrés en voix off par Corinne Luchère. Donc pour le résumé, je vous le ferai pas, vous avez qu'à écouter la chronique d'Élise d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela relève d'une facilité, le choix de cette voix off. Pourquoi ? Parce qu'en commençant par la fin, on nous annonce d'emblée que le personnage est puni par sa déchéance physique et sociale, par sa mort prochaine, par l'exécution de son père. Et donc on retire au récit qui se déroulera pendant 3 heures l'ambiguïté qu'il aurait pu avoir et le malaise qui aurait pu naître de diriger l'empathie du spectateur ou de la spectatrice vers des personnages qui n'auraient révélé que progressivement leur nature de pourri. Faire débuter le film par les conséquences des actions de ces personnages est finalement assez rassurant. On se trouve conforté de notre intégrité morale et bourgeoise d'ailleurs. Les salauds, ils seront punis, on le sait, et c'est bien moins gênant que d'imaginer qu'ils puissent se tapir là encore parmi nous dans les villes, dans les campagnes. Peut-être est-ce faire un mauvais procès au film hein, d'ailleurs que de lui reprocher ça, puisqu'il semble au contraire s'échiner parfois trop à monter des parallèles déjà trop clairs avec notre réalité, et la tuberculose, symbole pathologique de la pourriture morale, semble aussi déjà avoir contaminé la fillette de Corinne, indiquant que le mal continuera de se propager. C'est vrai. Bon, d'ailleurs, on peut quand même noter que cette pathologisation du fascisme, du collaborationnisme, de l'attentisme pose aussi certains problèmes, mais ce ne sera pas mon sujet aujourd'hui. Et en même temps, je maintiens donc que ce prologue, trop bref, 46, 47, c'est pas très sûr. Ce prologue trop bref de Corinne punie par le destin et par la vie et par l'histoire pose un horizon d'attente au film qui ne sera pas déjoué. Ce qu'on nous dit, c'est qu'à la fin de ces 3 heures, justice sera rendue et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Le choix de la voix off était ensuite un pari risqué, je le disais. Je parlais de facilité risquée. Facilité pour parce que ça ne nous gênera pas, risqué. Pourquoi ? Pour la comparaison que cette voix off ne manquerait pas de susciter avec Illusion perdue, le précédent film de Xavier Giannoli, où elle avait également un rôle structurant. Alors, pour m'entendre parler de Illusion perdue, et si jamais Xavier Giannoli, tu m'écoutes, sache que j'aime passionnément Illusion perdue, que c'est un de mes films préférés, et je te renvoie vers ma chronique sur le sujet lors du hors-série spécial Cinéma et Journalisme, paru il y a bientôt un an. Bref, la voix off, donc, n'allait pas manquer de susciter, avec Illusion perdue, une comparaison, un parallèle. Hélas. Hélas, pourquoi ? Parce qu'en déléguant le récit à Nathan d'Anastasio, qui était interprété par Xavier Dolan, les illusions donnaient au film un ton plein d'esprit, plein de finesse, plein d'ironie, plein d'humour, autant que de tendresse. C'était le ton du narrateur balzacien, en fait, qui, ok, empruntait un peu à Stendhal aussi, mais qui gardait à l'égard des événements une distance toujours amusée. Et cela, cette distance, elle était rendue possible parce que Nathan était un personnage secondaire de l'intrigue, un personnage de fiction et un personnage d'écrivain qui pouvait prendre, et par lequel Giannoli pouvait prendre lui-même, toute liberté avec le récit. Dans Les Rayons et les Ombres, c'est Corinne Luchère dont on entend le récit, et ça n'a rien à voir. D'abord parce qu'étant partie prenante de l'histoire, elle est dans une perspective forcément biaisée, redoublée en plus d'une auto-justification larmoyante, pathétique et permanente. C'est comme si Lucien de Rubempré, dans Les Illusions perdues, nous racontait sa propre histoire, et le film en aurait été beaucoup moins bien. Ce choix de donner à Corinne, donc attentiste, profitant de la collaboration, plus ou moins en en étant ignorante. Ce choix donc de donner à Corinne la possibilité de raconter sa propre histoire, ça alourdit fortement le film, autant que cela pose un vrai problème. Elle n'est pas un personnage de fiction. Et il n'y a donc rien d'anodin dans les choix qu'elle fait, ou que le scénario fait en son nom, de faire telle ou telle ellipse, de s'appesantir ici plutôt que là, de dire ceci plutôt que cela. Sa posture victimaire conditionne son discours, ce qui, 1. en fait l'exact opposé de la parole de Nathan, et 2. est questionnable dans le contexte du film. D'autant que le dernier carton nous indique que Corinne meurt à 28 ans avant d'avoir pu tourner le film qu'elle devait faire avec Léonide Mougui après la libération, ce qui donne l'impression que ce dernier film, c'est un peu Giannoli qui vient de le faire, et ça, bah, ça me plaît pas. Mais bon. Admettons, pourquoi pas après tout. Pourquoi pas nous proposer donc ce film qui donne la parole à une figure de collabo et d'attentiste en nous montrant, par exemple, des images qui contrediraient cette voix off, ce discours en permanence. Là, on aurait touché à quelque chose de fort. Là, il y aurait eu un sens à écrire et à enregistrer cette voix off. Elle aurait été plus qu'un simple accompagnement. Car ici, c'est tout le problème. Corinne décrit. Elle accompagne, elle décrit ses souvenirs en tentant de se racheter une conscience tout en noyant au passage l'histoire, les dates et le contexte. Et le film se contente de les illustrer. Jamais on n'atteint les puissantes envolées ironiques des illusions perdues en dehors de la séquence magistrale aux Invalides du retour du cercueil de l'Aiglon en France. Alors, le commentaire de Corinne s'élève jusqu'à prendre une tournure visionnaire, une condamnation baroque et moraliste magnifiquement stylisée sur fond de l'introitus du Requiem de Mozart. L'étalonnage paraît basculer au noir et blanc tant sont travaillés les contrastes du marbre, des costumes sombres des dignitaires invités à cette mascarade. Et dans la nuit de Paris, dans ce titanesque mausolée, on voit cette élite complice de la mort s'enterrer elle-même. C'est une séquence véritablement puissante, inoubliable et qui nous mène à sincèrement regretter que tout le film ne soit pas à cette hauteur-là. La narration de Corinne, tout à coup et de manière presque aberrante au regard des platitudes, des banalités qu'elle a énoncées jusque-là, gagne une radicalité esthétique et donc politique, puisque le film est frappé d'un apolitisme terrible, et donc politique donc que n'aurait pas renié un Éric Vuillard. D'ailleurs, je pense que ce film n'aurait pas dû exister et qu'à la place, Éric Vuillard aurait dû écrire un livre sur les Luchères. Quand on connaît cet écrivain français que je vous recommande de lire, on imagine toute la causticité, la précision et la force qu'aurait eu un tel texte, tant ce sont là précisément ces hommes et ces femmes à la fois puissants et discrets, ces mous et ces tièdes, ces amoureux de l'argent surtout, que l'écrivain vomit et vomit brillamment à longueur d'ouvrage. Sans doute y aurait-il eu certains de ces morceaux de bravoure dont l'écrivain a le secret, sa manière de convoquer les morts des camps de concentration, de la Première Guerre mondiale ou de la guerre d'Indochine, morceaux de bravoure brillants et baroques. Mais à la limite, ce genre de passages sont facilement impressionnants. Pour peu qu'on sache écrire, ou pour un long métrage, qu'on sache filmer, on est vite séduit et convaincu. Mais Vuillard est un grand écrivain parce qu'il arrive à nous passionner et à nous révolter en rendant compte de réunions. Voilà, moi, à mon sens, dans son œuvre, les passages les plus forts sont souvent ses conseils à porte close, à bas bruit, dans lesquels s'introduit l'écrivain pour nous révéler les magouilles et les bassesses des puissants. Le partage de l'Afrique à Berlin dans Congo, le soutien des capitalistes allemands à Hitler dans L'Ordre du Jour, ou le conseil d'administration de la Banque d'Indochine en 1954 dans Une sortie honorable. Par le style, par des sentences, par des formules, ces moments a priori ternes, banals, que sont des réunions, sont les véritables acmés de ces livres. Et sans doute Vuillard aurait-il raconté les conseils d'administration du journal de Luchère mieux que ne le fait Giannoli, qui opte pour une mise en scène terne, des scènes brèves, expédiées, didactiques. En somme, il pense que les réunions ne sont pas le plus intéressant, alors que c'est là que tout se joue souvent. Et dans ces conférences de rédaction, bien loin, là encore, de celles des petits torchons de Vincent Lacoste dans Illusion perdue, et bien dans ces scènes de réunion s'expriment en gros deux voix seulement, celle du collabo heureux de participer activement à l'antisémitisme et celle de Luchère qui ne dit rien, qui esquive. Les dialogues sont médiocres et non, filmer longuement la chaise vide de Jean Luchère pour signaler lourdement la lâcheté du personnage, ce n'est pas du cinéma, c'est un non-choix. Et oui, je ne suis personne pour le dire. Mais oui, en fait, il est là aussi le problème de Les Rayons et les Ombres. C'est qu'il semble contaminé par la tiédeur de ses personnages, incapable de faire des pas de côté par rapport à la représentation classique de l'occupation en France, incapable de se faire confiance et de faire confiance au spectateur au point de laisser un procureur implacablement donner la morale de l'histoire, il le fait très bien, certes, et incapable aussi de choisir lequel de ces deux protagonistes il veut suivre. Jean Luchère comme sa fille nous apparaissent donc par épisode pour équilibrer leur temps à l'image, mais du même coup leur trajectoire manque de cohérence, de lien logique, et au fond on ne saisit pas ce qui a pu pousser un pacifiste de gauche à soutenir le nazisme activement, quand bien même le sujet était passionnant et, en effet, peu traité au cinéma. De telle sorte aussi que nous demeurons impassibles au sort de ces messieurs-dames. Luchère du Jardin semble pris dans une même boucle où une crise de tuberculose succède à une soirée olé olé et précède une demande à de faveur à l'ambassade. Et puis Corinne Golubeva, de son côté, elle manque de grâce, d'émotion et de la joie solaire qu'elle révèle sa Coralie dans Illusion perdue, pourtant autre personnage d'actrice jeune, tragiquement emportée alors qu'elle dit ne pas vouloir mourir jeune. Finalement, seul Otto Abetz, incarné par Auguste Diehl, est intéressant, peut-être parce qu'en professant l'ordre et l'autorité comme valeur, il a au moins plus de corps que les Luchères, il a au moins quelque chose auquel se rattacher, et quand le relais du spectateur devient l'ambassadeur de l'Allemagne nazie en France, il y a peut-être un petit souci. La liste serait longue des choses qu'on peut encore reprocher à ce film, de même qu'elle serait longue, la liste, de tout ce qu'il aurait pu être, ou tout ce qu'il aurait pu mentionner, et qu'il n'est pas, ni qu'il ne mentionne. Un panorama plus large de la France dans les années 30 aurait pu être intéressant. Une plongée plus profonde dans le monde du cinéma, aussi, ce qui aurait évité le cringe que suscite la dernière réplique, ou en tout cas qu'il aura peut-être plus contextualisé. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses très intéressantes aussi que je ne lui enlève pas. Giannoli reste très bon pour parler de l'argent, de sa puissance de corruption. Et en réalité, si le film ne m'avait pas à ce point déçu, j'aurais été peut-être plus tendre dans cette chronique. Mais la dernière scène où Mougi, le réalisateur juif ukrainien qui a lancé Corinne dans le cinéma et qui avait fui la France dès 1939, il rend visite à Corinne dans son HLM gris après la guerre. Et alors qu'elle cherche encore à se défendre de son ignorance des horreurs de l'occupation et des camps où est morte la sœur de Mougi, Mougi lui demande tout simplement si elle a cherché à savoir, question rhétorique au moins aussi forte que toute la belle plaidoirie du procureur. Mais bon, j'ai été tellement déçu par ce film que j'ai préféré évoquer quelques aspects des problèmes qu'il m'a posés. Si quelqu'un a réussi à écouter toute cette chronique, est allé au bout de ma jactance interminable sans avoir encore vu le film, bien qu'il ou elle revoie la grande vadrouille pour les personnages de bourgeois attentistes, Papy fait de la résistance donc pour des fêtes de nazis filmées sans complaisance, ou l'armée des ombres pour une vraie restitution sur une durée très longue de l'ambiance glauque de l'occupation, et puis que cette personne qui m'écoute attende la diffusion du film de Giannoli sur France 2, où ce brûlot bien inoffensif trouvera sa place et laissera les vrais salauds dormir en paix. Enfin voilà, c'était mon avis sur le film. Maintenant, allez le voir en salle, pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre avis et participer à ce débat. Faites vite, il ne reste plus qu'un épisode pour qu'on entende vos retours au micro du comptoir du cinéma.